Depuis l'hôtel, le Novotel Avignon Centre avec Osmose Radio, la radio off du web, pour l'édition 2024 du Festival d'Avignon. Nous recevons un spectacle qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle « Elle ne m'a rien dit ». Écrit, mis en scène et joué, entre autres, par Hakim Jaziri. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci à vous.
Ça se passe à la Factory, au Théâtre de Loul, à 22h30.
30, c'est ça.
Tous les jours, sauf le...
Sauf maintenant, le 16 juillet.
Le 16 juillet.
Dernier relâche, c'est le 16 juillet.
Qui maintenant. Sera mardi, c'est ça ?
Mardi.
Ouais. Ok. Voilà, donc vous avez encore de nombreuses occasions d'aller voir ce très touchant et percutant spectacle, en tout cas proposition. Elle ne m'a rien dit, l'histoire d'une singulière, d'une femme, un féminicide, mais loin d'être pas que.
Oui,
c'est,
non, pas que.
C'est vraiment, je tiens à mettre tout de suite en avant, peut-être que le terme féminicide pourrait peut-être mettre quelques résistances, réserves à venir voir ce beau spectacle. C'est vraiment autour de cet événement tragique, vraiment tout ce qui a pu se mettre en place, comment on y est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, qui est vraiment le propos de ce spectacle. Mais tu vas nous en dire plus sur tout ça.
Je vais en parler, absolument. Oui. En fait, c'est un spectacle qui fait suite à ma rencontre avec Hajer Seili. Hajer Seili, qui est la seule personne aujourd'hui en France à avoir fait condamner l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice.
C'est la sœur de la victime.
Exactement.
C'est ça.
Et suite donc au féminicide de sa sœur qui a eu lieu en 2010 dans le quartier Haute-Pierre à Strasbourg. En fait, il y a eu 11 ans de combats juridiques, judiciaires même, qui ont fait suite à cet événement-là. Et Hajer a fini par réaliser l'impensable le 17 mars 2021 en faisant condamner l'État français pour la première fois de son histoire, déterrant ainsi la responsabilité dans la prise en charge des victimes et à tous les échelons, en fait.
Donc, oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la sœur, donc la femme qui subit le féminicide... a le courage d'aller voir la police pour porter plainte contre son mari.
Absolument.
Mais là, ce jour-là, défaillance, sa plainte n'est pas reconnue, elle n'est pas prise, et du coup, elle rentre chez elle, et c'est là que le drame se passe.
Oui, comme beaucoup d'ailleurs de situations qui se passent comme ça. Mais déjà, peut-être commencer par situer un petit peu le postulat de départ de cette pièce, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de raconter une sorte d'événement. Ce n'est pas un événement du tout, l'histoire d'Alam, ça c'est très important. C'est-à-dire, c'est pas un épiphénomène. En fait, malheureusement, ce spectacle, il part d'un postulat très simple, qui est celui que tous les 2 jours et demi en France, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, de son mari, de son compagnon. Ex-conjoint, ex-mari, ex-compagnon. Cette statistique n'inclut pas toutes celles qui sont poussées au suicide, et elles sont très nombreuses. Elles n'incluent pas aussi toutes celles qui sont tuées, par exemple, par des frères, par des pères, etc. Donc, en fait, c'est juste la partie visible de l'iceberg, et déjà, elle devrait nous alerter très grandement, parce qu'en réalité, c'est un sujet qui nous concerne absolument tous et toutes. On est juste là, nous, on parle du bout de la chaîne des inégalités femmes-hommes. Et de leurs conséquences qui sont et qui peuvent être funestes et qui se quantifient tous les 2 jours et demi. Donc en fait, c'est un phénomène qui est systémique, absolument systémique. Et depuis qu'on compte les morts, il ne faiblit pas. Et il est d'autant plus d'actualité que cette année 2024, si elle continue comme elle a commencé malheureusement, eh bien nous allons battre des records. Et malgré le Grenelle de 2019, malgré le fait qu'il y ait un nombre de tentatives incalculables, malgré le fait que la justice soit déjà sur la voie d'une meilleure formation, les policiers également, même si on a encore beaucoup, beaucoup à faire dans ce sens-là. Et en fait, l'idée de ce témoignage, c'était de dire, OK, on ne parle pas spécifiquement de cet événement-là, mais on a pris tout le spectre des violences conjugales qui est très complexe. On parle évidemment d'amour, parce que cet accomplissement, c'est ni plus ni moins d'abord qu'une histoire d'amour avec un grand A, celui qui fait faire des miracles. Hajer a voulu rendre justice à sa sœur, et elle l'a fait de la plus belle des manières et avec une abnégation absolument incroyable. C'est une histoire d'amour familial aussi, puisqu'elle a recueilli aussi le fils de sa sœur, qui était nourrisson à cette époque.
Bien sûr, qui Saïf. Est survivant.
Non seulement survivant, mais qui aujourd'hui est un jeune homme absolument lumineux, qui connaît toute son histoire et finalement qui a fait un choix qui est très simple, qui est de dire ma famille, c'est Hajer parce que c'est ma mère. Elle le considère comme son fils, il considère ses cousins comme ses frères. Donc il y a quelque chose qui... a vraiment été transcendée malgré l'horreur. Et c'est la raison pour laquelle aussi on raconte cette histoire. En fait, elle se finit en feu d'artifice, c'est inspirant au possible.
Tout à fait, et ça démarre d'ailleurs avec cette relation entre ces deux sœurs, leur enfance, comment elles grandissent, comment elles prennent des chemins différents en se mariant, et puis effectivement comment elles se retrouvent ensuite.
C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on a trois parties dans ce spectacle-là, mais qui sont très liées. C'est pas trois blocs. C'est-à-dire que les parties, indépendamment les unes des autres, bah, on a vraiment un bout d'histoire quoi, à chaque fois. Donc, il était important de tout balayer. Depuis, effectivement, c'est l'enfance de ces sœurs qui sont fusionnelles, qui ont un lien extrêmement fort, qui ont une passion pour la danse, etc. Et puis, on décortique aussi dans toute la première partie le mécanisme de domination qui peut s'installer dans un couple. On voit bien dans la pièce que ça part d'une sorte de coup de foudre. Et puis, ça se termine avec un dominant qui est extrêmement dominant et un dominé qui est extrêmement dominé, avec un fossé qui s'est créé au fur et à mesure du temps qui est juste invraisemblable. Ce mécanisme-là, oui, c'est peut-être la partie la plus inconfortable. Mais en même temps, elle est extrêmement nécessaire pour aussi en parler. De ces mécanismes de domination, parce qu'au-delà même du couple, il y a un principe d'identification pour tout le monde par rapport à la vie de tous les jours, en fait. Comment on traite les autres, comment est-ce qu'on décide de faire fi de notre égalité, de notre humanité qui est notre socle commun et qui nous permet d'être égaux partout et tout le temps, en fait. Peu importe nos origines, notre rang social, peu importe notre provenance, notre croyance, qu'on soit de sexe féminin ou masculin. Voilà. En réalité, c'est tout ça. Et puis la dernière partie, elle raconte le combat d'Agir Seyili pour faire condamner l'État en 2021.
Tout à fait. Tout à fait. Alors je réfléchissais pour avoir vu le spectacle au mois de mai là, et le spectacle, c'est, oui, on peut parler de spectacle, mais
c'est un acte artistique.
C'est un acte artistique, vraiment. On est, nous, spectateurs, observateurs, un petit peu voyeurs, ouais, de ce qui se passe dans la cellule familiale. C'est fort, mais c'est jamais, enfin, c'est malaisant, et en même temps c'est jamais du mauvais voyeurisme, quoi.
Oui, absolument.
Et c'est pas du pathos. On n'est pas dans le pathos du tout, quoi. Et je trouve que c'est très très fort, même dans les scènes les plus extrêmes. C'est fort, c'est intense, mais voilà, c'est vous avez réussi à montrer, enfin en tout cas à transposer ce que pouvait être ce genre de scène sans que on tombe dans le pathos ou dans
ça. C'est grâce aussi à l'immersion que j'ai pu faire auprès d'Agir et auprès de sa famille, parce que j'ai recueilli 30 heures d'audio
il fallait
comprendre, il fallait déjà impérativement comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, mesurer la complexité pour pouvoir la restituer. Et puis il y avait une véritable notion de fidélité au récit d'Agir, à ce qu'elle m'a confié, parce que c'est pas simple, parce qu'elle est encore vivante, parce qu'elle accompagne le projet. Donc évidemment j'étais engagé de A à Z sur cette restitution, à être encore une fois le plus fidèle possible à cela. Donc ça, c'est vraiment le postulat de départ. Et donc au fur et à mesure du temps, ça nous a permis de maîtriser complètement le sujet et son spectre qui est très très large, encore c'est une ça, fois. Ouais. Et donc ça nous a permis aussi de développer beaucoup beaucoup d'actions en parallèle du spectacle, beaucoup de moments de communion citoyen pour informer, faire prendre conscience à quel point est-ce que ce sujet-là est un sujet qui nous concerne absolument tous et toutes, que nous avons des logiciels à défaire partout, tout le temps, qu'on a déjà entendu quelque chose par rapport à cette thématique, qu'on est concerné directement, indirectement. Bref, en fait, c'est un sujet qui est viscéral et organique.
Oui, parce que rien n'était écrit au départ. Elle pouvait pas imaginer que ça allait terminer comme ça. Au début, c'est tout beau, tout rose, et cet homme la trompe petit à petit, il change d'attitude au fur et à mesure qu'il avance dans son piège, et effectivement peut-être que même lui-même au départ c'est pas pas une idée préconçue sur tout ça, mais c'est la vie qui
en fait, c'est encore une fois, c'est les circonstances, c'est aussi le socle éducatif dans lequel ce garçon est, et encore même si on peut pas l'accuser, parce que dans son cas lui, il avait une famille qui était très aimante. En fait, où est-ce que ça a déraillé? c'est difficile à expliquer. Ce qui est sûr et certain, c'est que, bon, si on rentre dans la psychologie même de chaque individu, on a tous un fond de psychopathie en nous, d'accord ? Après, elle s'exprime ou elle ne s'exprime pas. On arrive à la faire taire ou, et à vivre en société.
On bascule
et puis,
ou pas.
Voilà, tout simplement. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple que de basculer parce que lui, il a vraiment été au bout du bout. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, il s'est même défenestré. Donc, il n'y avait plus de justice à rendre sur le meurtre en question puisqu'il était mort. Donc, en fait, la justice, elle a été... par rapport effectivement, et ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le dysfonctionnement de la prise en charge de Alam qui, le 16 avril, a été porté plainte pour les menaces de mort, ce qui est un acte de courage quand une victime le vit depuis déjà plus d'un an, qui est juste difficilement mesurable, hein, parce qu'il en faut du courage. Mais à partir du moment où une victime demande de l'aide et que les institutions qui sont censées la protéger lui refusent cette aide-là, elle est condamnée, c'est terminé. Elle ne reviendrait plus jamais demander de l'aide à quiconque. Et en règle générale, la finalité, c'est la mort. Mais encore une fois, ce n'est pas un acte isolé, ce n'est pas un événement isolé ce qui s'est passé. Et donc l'idée pour nous, bah, c'était de tout balayer du coup. Donc on déterre ce problème qui est lié à la formation des policiers qui ne sont pas formés pour comprendre ce qu'est le principe de sidération des victimes. La sidération, c'est vraiment le problème neurologique qui fait suite aux nombreux traumatismes vécus à répétition en fait.
Oui, parce qu'elle vient pas tout de suite après le dernier acte de violence, ça prend du temps. Donc
c'est
du
graduel,
coup on lui
bien
dit
sûr.
Mais là vous avez l'air bien donc voilà.
C'est ça en fait, c'est-à-dire que les victimes dans son cas à elle, on lui a reproché son silence alors que ça fait des mois qu'elle subit ces violences là, on lui a reproché le fait qu'elle n'a pas été constatée ses blessures par un médecin légiste, etc. Enfin, c'est-à-dire que la victime en gros doit connaître absolument toutes les procédures possibles imaginables. Alors que non, c'est pas comme ça que ça marche. Et on a un modèle qui fonctionne merveilleusement bien dans ce sens, qui est l'Espagne. On pourrait absolument tout reprendre de leur lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a des jurés qui sont spécifiquement formés sur cette question-là. Donc évidemment, leur regard il est beaucoup plus acéré. Nous, ici en France, un juge peut traiter d'un homicide le matin, peut traiter d'une histoire de violence conjugale l'après-midi, une histoire de violence intrafamiliale le soir. Enfin, voilà, ils doivent faire face à tout. On est humain, donc c'est un peu compliqué. Pareil pour la formation des policiers, pareil pour la réponse de la justice. Parce que c'est ça aussi qui déraille en France, c'est la réponse de la justice. En Espagne, elle est extrêmement dissuasive. Hein, oui. Quelqu'un qui veut s'en prendre à une femme, il sait très bien qu'il va y avoir des conséquences. Nous, ici en France, malheureusement, il y a moins de 1% de condamnations en prison ferme. Il y a des mesures d'éloignement, il y a des amendes, il y a de la prison avec sursis, il y a des rappels à la loi, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais oui, les mecs reviennent.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a des difficultés à vérifier que ces mesures soient respectées.
Enfin, en tout cas, complètement.
Et moi, je voulais mettre en avant l'extrême qualité d'interprétation des actrices et de vous-même et de votre... Vous êtes 4 sur scène.
5.
Hein. 5.
Exactement.
Ah oui, 5. J'ai raté. Hein.
Oui, je vais les nommer rapidement.
Oui, voilà.
Il y a Lisa Ours qui joue le rôle d'Alam, c'est Ili. Il y a Sephora Iman qui joue le rôle d'Ager, c'est Ili.
Oui.
Voilà. Il y a Corinne Juresco qui joue plusieurs rôles féminins,
en
l'occurrence la mère, mais elle joue aussi la doyenne des juges d'instruction, la directrice de la sûreté du bar, hein, etc. Et puis Antoine Formica qui joue plusieurs rôles masculins pour le coup. Lui, il interprète le fameux policier, il interprète aussi Stéphane, le cousin d'Ager et Alam qui était dans le processus juste avant la mort d'Alam, qui interprète aussi le maire de la ville de Saint-Laurent-du-Var, enfin toutes les personnes qui ont compté dans le parcours d'Agère et qui lui ont permis à la fin aussi de réussir l'impensable parce que évidemment c'est pas une aventure esselée quoi. Mais elle a eu de l'aide et c'est obligatoire quand on réussit à condamner l'État, c'est pas anodin quoi.
Et vous-même qui jouez le
et moi-même qui joue le rôle du bourreau qui
du
est
bourreau,
pas le rôle le plus simple
non.
Et qui a été extrêmement extrêmement éprouvant pour moi parce que voilà, moi, j'ai un engagement qui est, à mon avis, à mon sens en tout cas, très sincère par rapport à cette question. Donc, interpréter un personnage...
Ouais, c'est vraiment un rôle de composition pour le coup.
Ah bah oui, pour qui on peut difficilement avoir une quelconque excuse ou empathie, vraiment, hein, parce que c'est, c'était très, très difficile. Mais en même temps, je l'avais écrit, en même temps, je connais ce mécanisme de la violence pour l'avoir vécu. Et puis, je savais jusqu'à quel point il fallait aller. Voilà, j'ai fait un énorme casting, je devais pas jouer dedans au départ, j'ai fait un énorme casting, mais malheureusement, j'ai pas pu trouver les acteurs pour...
En tout cas, le jeu est d'une justesse extrême et on tombe jamais dans le trop, justement. Ouais. Il y a plein de lieux communs dans lesquels vous auriez pu vous confondre et vous êtes toujours à la limite. Et merci et bravo pour ça. Et également, je voudrais continuer avec le fait que ce spectacle, c'est un vrai projet pédagogique, c'est un vrai support d'éducation. Et c'est un travail que vous faites déjà avec les collégiens. C'est dans le fait de faire vivre aussi ce spectacle.
Complètement, parce que dans ma visée initiale, le spectacle, il fallait, en tout cas on avait le rêve qu'il dépasse le cadre culturel dans lequel il s'inscrit, pour devenir peut-être un spectacle qui nous fasse encore une fois prendre conscience, qui nous permette aussi de faire un certain nombre de travaux sur le terrain avec les territoires qui nous programment. Et c'est ce qu'on a fait toute l'année, puisque le spectacle est né le 30 janvier dernier, et que avant de venir en Avignon, on a fait une tournée d'une quinzaine de dates un peu partout en France, et on a travaillé avec tous les territoires sur des tables rondes, avec des collégiens et lycéens, sur des immersions vraiment longues, sur 3 mois, 4 mois de temps à travailler sur la notion d'égalité femmes-hommes et ce qui pourrait en découler avec plein de vecteurs artistiques. On fait ça régulièrement. On a travaillé avec des jeunes qui en sont en insertion professionnelle ou en décrochage scolaire sur des courts-métrages avec le vecteur audiovisuel. On a travaillé avec des victimes de violences conjugales. Voilà, en fait, le spectacle, c'est pas une finalité du tout. Vraiment, il fait partie d'un projet global. Voilà,
c'est même qui est un vecteur, un support.
Exactement. C'est un support parmi tant d'autres.
Ouais,
voilà,
d'accord.
C'est exactement ça.
Mais c'est aussi une œuvre totalement artistique à voir et à recevoir comme telle. C'est vraiment, il y a vraiment tous les
c'est
plans.
C'est très important, effectivement, de dire ça. Merci de le dire, parce qu'en fait, on a énormément travaillé. Vous parliez d'interprétation, par exemple. Ça, c'est un travail qui nous a pris énormément de temps. Je salue vraiment le travail de mes deux comédiennes principales, enfin de tous mes comédiens d'ailleurs. Mais Alam et Sephora ont été cherchés très très loin. Dans la recherche et dans la restitution. Et je savais justement qu'il ne fallait pas qu'on rentre dans une forme de sensationnalisme du tout. C'est que ça. Le traitement de la violence, par exemple, il allait être pris en charge par les actrices, mais par exemple, on ne se touche jamais. Les gens ne se rendent pas compte, mais l'atmosphère qui est extrêmement oppressante, elle est prise en charge par la lumière, par le son. Et en même temps, j'ai un truc très important à dire, parce que c'est vrai, c'est inconfortable, c'est pas évident, on tortille des fesses, pardon l'expression, pour le public, mais il faut jamais oublier que le public est installé confortablement dans un théâtre. Et il regarde quelque chose, certes, qui est inconfortable, mais il est à des années-lumière de la réalité.
Il est en sécurité, lui.
Totalement en sécurité. Ouais. Donc, il a la possibilité de sortir, de s'extraire avec son imagination, même physiquement. C'est tout à fait envisageable. Mais pour nous, c'est pas arrivé qu'il y ait des spectateurs qui sortent.
Mais c'est absolument pas insupportable.
Justement, on s'attendait à ce que des spectateurs sortent. Ouais. Il n'y en a jamais eu qui sortent.
Non, parce que on est toujours, on est sur le fil. Ça fait réagir, ça fait résonner.
C'est ça.
On en frissonne, mais en même temps, on est happé par l'histoire. C'est une vraie histoire. Il y a un vrai fil conducteur. On s'intéresse, à ces personnages, quels qu'ils soient, à tous, même vôtres.
Absolument.
On essaie de comprendre On est spectateur vraiment de cette
c'est un
histoire
vrai acte artistique.
Tranche de vie, quoi.
C'est ça.
Complètement.
Alors, c'était pas évident de faire ce mix-là, c'est-à-dire de prendre un témoignage brut de décoffrage d'une femme qui existe, aussi inconfortable que celui-là, et puis d'en faire une pièce de théâtre. C'est sûr que c'est pas évident, hein. La jonction, elle est pas facile. Mais je crois que ce qui est réussi, c'est justement ça, c'est qu'on a évité un certain nombre d'écueils dans lesquels on pouvait tomber, notamment le sensationnalisme. On a fait même un objet que beaucoup disent poétique.
Oui.
C'est étonnant quand on parle d'une histoire pareil.
Je suis d'accord.
Voilà.
C'est vrai, il y a une forme de poésie latente.
Et puis, il y a de l'espoir aussi.
Il y a l'espoir. C'est vrai que le devenir de cet enfant qui a démarré sa vie au milieu de cette souffrance et comment il, aujourd'hui, effectivement, le fait que ça soit une histoire vraie, ça amène aussi quelque chose, on s'identifie à l'histoire.
Absolument.
On a envie de...
Elle est universelle dans sa portée.
Elle est universelle, mais en même temps, elle est représentée. Quoi.
Exactement, donc, c'est exactement ça.
Donc merci, vous l'aurez compris, c'est vraiment un spectacle à aller voir. C'est à 22h30, c'est vrai, c'est un peu tard, mais vraiment...
Ça
vaut la peine, en effet, de terminer la soirée avec ce spectacle. Elle ne m'a rien dit, c'est au Théâtre de Loul avec le Théâtre de la Factory. C'est tous les jours, sauf le mardi jusqu'au 21. Bon fin de festival.
Merci infiniment pour l'invitation. Merci
encore.
Au revoir.